Bonsoir, deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Nous commencerons par le lancement lundi dernier à Kinshasa d'un contrat de service entre le gouvernement congolais et la firme canadienne Manitoba Hydro International pour le compte de la Société Nationale d'Électricité. Objectif, apporter une assistance technique à la SNEL afin que celle-ci remplisse mieux sa mission. Ensuite, le gouvernement a remis mercredi dernier à la CENI la liste définitive des partis politiques. Cette liste comporte 477 partis et une trentaine de regroupements politiques. Participe à cette émission, Baudouin Saïlé. Bonsoir, confrère.
Bonsoir, confrère Irung.
Vous êtes éditeur du journal La Tchopo qui paraît à Kinshasa. Giscard Koussema, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes directeur général de Canal Future Télévision, une télévision qui n'émet plus depuis un certain temps à Kinshasa. Baba Isaac Alongi, bonsoir.
Je vous salue, mon cher.
Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes basé en Mbujimayi au Kassai Oriental. À tous, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans votre émission. Signature d'un contrat de service entre le gouvernement congolais et la firme canadienne Manitoba Hydro International pour le compte de la SNEL et dépôt à la CENI par le gouvernement de la liste des partis politiques. Voyons comment la presse quinoise a traité ces sujets dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
Les journaux parus cette semaine dans la capitale congolaise font état notamment du contrat SNEL-Manitoba ainsi que de la liste définitive des partis politiques déposés à la CENI. L'Observateur souligne sur sa manchette ce qui peut être considéré comme une mise au point. Le quotidien dit « la SNEL n'est pas vendue » et précise « elle a plutôt signé un contrat de service avec Manitoba Hydro du Canada ». Et toujours dans ses précisions, l'Observateur affirme que le dit accord permettra à terme à cette société commerciale d'améliorer sa gestion et de sécuriser ses clients. Les six directions de la SNEL seront désormais pilotées par des experts canadiens. Le quotidien annonce que dans cet accord est également inclus un contrat d'audit technique et financier pour suivre l'exécution du contrat de performance et contrat de service, ces derniers s'inscrivant dans le cadre de la réforme des entreprises publiques décidée par le gouvernement depuis 2008. De son côté, Radio-Capi.net rapporte que ce contrat entend redresser cette entreprise publique et lui permettre d'améliorer sa gestion. Le site reprend les propos de l'administrateur délégué de la SNEL, selon lesquels ce contrat permettra à son entreprise de se doter d'un plan d'une société d'électricité moderne. Le numéro 1 de la SNEL a annoncé la reprise de certains projets pour améliorer la fourniture du courant à Kinshasa, notamment Inga 2. Radio-Capi.net cite la ministre congolaise du portefeuille, qui a affirmé que depuis la transformation de la SNEL en société commerciale en 2010, plusieurs projets ont été lancés pour assainir sa situation patrimoniale et financière avant d'ouvrir effectivement son capital aux investissements privés. Au sujet de la liste des partis politiques, presque tous les journaux de Kinshasa ont relayé en boucle cette liste avec ses 477 partis et 35 rassemblements politiques. Mais le phare va plus loin et prend position. Selon le journal de l'avenir Lukusa, il n'y a que des vrais partis politiques en RDC. L'UDPS et le PPRD qui ont des représentations dans tout le pays. Puis les MSR, le PPPD et l'AFDC qui ont un certain nombre de députés. Mais le reste, je cite le phare, ce sont des aventuriers. Et pour la prospérité, cette liste comporte 477 partis officiellement reconnus à ce jour, une trentaine seulement dirigés par des femmes. Évariste Bouchab se félicite de la publication de cette liste et confie que pour lui, hors de cette liste, tout autre candidat aux élections en RDC ne pourrait être qu'indépendant.
Merci Guy Maté. Baudouin Saïlé, vous êtes éditeur du journal La Tchopo qui paraît à Kinshasa. Dans l'actualité, c'est toujours la conférence de presse du Premier ministre de la semaine passée qui a continué aussi à alimenter l'actualité cette semaine. Le Premier ministre qui dit par exemple que le taux de chômage en RDC est passé de 60 à 40% et commentaire.
Bon, il est l'élection du gouvernement, ça fait à peine 2-3 ans. Il maîtrise le cadre macroéconomique, c'est vrai. Et je proposerai au Premier ministre de faire le tour de la République. Hein, il doit être partout, au Maniema, dans les grands kivus,
pourquoi
etc.
Pour palper les véritables réalités.
Pour palper les véritables réalités, pour palper ce qui se fait et ce qui ne se fait pas par d'autres gouverneurs. Heureusement que le gouvernement, comme le gouvernement est arrivé, il faudrait que le Premier ministre puisse sensibiliser davantage la territoriale pour que cette fois-là, on ne puisse pas rater le décollage des nouvelles provinces. C'est très important.
Une autre actualité, Baudouin Saïlé, le Congolais Antoine Kessiambé a prêté serment comme juge de la CPI depuis mardi 10 mars dernier. C'est pour la première fois qu'on a un Congolais parmi les juges à la CPI.
Mais je crois qu'on dit que mieux vaut tard que jamais, parce qu'à l'époque, même à la RFI, ce sont d'autres Africains qui sont en train d'animer. Même dans des institutions internationales, FMI, Banque mondiale, aujourd'hui, vraiment, avec l'avènement de notre frère au niveau de la CPI, j'applaudis, et que ça ne s'arrête pas là, ça doit continuer dans toutes les institutions internationales.
Giscard Koussema, vous êtes directeur général de Canal Futur Télévision, une télévision qui n'aimait plus depuis un certain temps à Kinshasa. Comment vous analysez cette actualité d'un premier Congolais parmi les juges à la CPI?
Merci Alain, je voudrais préciser, oui, c'est depuis 4 ans que Canal Futur n'aimait pas, bientôt 5, et c'est aujourd'hui devenu le symbole même de l'intolérance politique, du monolithisme idéologique dans ces pays. Bon, on a eu le temps de le dire, mais en un mot, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que Canal Futur survivra de ses oppresseurs. Alors, par rapport à cette actualité, nous dirons, bon, la RDC, c'est le plus grand pourvoyeur de clients de la haie. Il est tout à fait normal qu'il y ait au sein de la CPI, un juge RD congolais, d'autant plus qu'il y a des personnalités escalitées qui, en matière des droits, ont fait leur preuve au plan international. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait quand même un Congolais à ce niveau-là, parce qu'au niveau d'autres institutions, des organismes internationaux, nous n'en avons pas, soit par manque du sérieux ou encore par manque de cotisation, parce qu'on n'est pas éligible.
Une autre actualité, Giscard Koussema, c'est une nouvelle vague d'opposants qui se retrouve aux États-Unis.
Oui, effectivement, depuis quelques jours, une séquence vidéo est diffusée d'ailleurs. Toutes ces variantes privées montrant ce qu'on peut appeler une tentative d'altercation de quelques forcenés qui ont tenté de perturber une conférence animée par l'un de ses opposants, Vital Kamerhe, pour ne pas les citer. Et ce qui est drôle dans ce montage grossier, c'est qu'on veut faire de cet événement auxiliaire comme si c'était l'événement. Alors que la vérité, c'est quoi d'abord? Un, c'est que les opposants sont allés aux États-Unis à l'invitation de l'administration américaine à travers l'aide d'un organisme bien connu. Donc c'est là où se trouve l'actualité, personne n'en parle. Deuxièmement, ils ne sont pas allés là-bas pour une séance de casting pour dire qu'il y a une présélection d'un candidat président. Non, cela il est tout à fait normal, cette fois c'est plus médiatisé. On va jusque dans la périphérie. Je termine par rapport à ces faits pour dire que la vérité finit toujours par être rétablie. La séquence est d'une heure, une conférence d'une heure qui est une activité auxiliaire.
Merci.
Il est normal que des Congolais aillent réfléchir. Les gens du pouvoir les font également. Pourquoi les opposants ne les feraient pas? Donc, ce n'est pas un casting, ce n'est pas un défilé des candidats présidentiels.
Baba Isaac Kalongi, vous êtes journaliste indépendant basé à Mbujima et au Kassai Oriental. Qu'est-ce qui fait l'actualité sur place?
Elle est dominée particulièrement par l'absence du gouverneur de province et puis très marquée par la loi portant programmation et installation des nouvelles provinces.
Alors, dans l'actualité, Baba Isaac Kalongi, ici à Kinshasa, c'est également le rapport d'Oxfam intitulé « L'insécurité insécurisée qui révèle que 2 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, les conflits et les violences envers les civils sont toujours monnaie courante dans beaucoup de zones de l'Est de la RDC. Un petit mot là-dessus.
L'insécurité est vraiment sécurisée parce que c'est le gouvernant qui doit garantir la sécurité des personnes de leurs biens. Et à ce titre, lorsque l'insécurité prend de l'ampleur, on comprend que ce sont les gouvernants qui ne veulent pas qu'il y ait sécurité. Et en ce moment-là, on ne peut pas tergiverser pour dire que quelqu'un d'autre vienne du dehors pour venir violer notre souveraineté et nous sécuriser. Nous devons nous assumer et les gouvernants doivent s'assumer aussi.
Avant de passer à notre premier thème, Baba Isaac Kalongi, Mbujimayi, la grosse actualité, c'est également la construction du stade. À quel niveau sommes-nous aujourd'hui?
Oui, je suis très content de cette question parce qu'elle est préoccupante localement. Le stade était déjà au niveau de pratiquement définition. Il est grand, il est géant par rapport aux autres provinces. Je crois qu'en dehors de Kinshasa et de Lubumbashi, il n'y a aucune autre province qui peut venir avant le Kassai oriental du point de vue cette infrastructure sportive de base. Et les travaux vont bon train, mais au moment où je vous parle, on est en train d'aplanir l'aire des jeux pour mettre la pelouse synthétique qui est déjà sur place à Mbujimayi. Et des petits travaux de canalisation des eaux et puis la collecte des immondices, je crois que c'est pratiquement terminé, sauf quelques fentes sur le mur de clôture qu'on est en train de remettre en état.
Merci.
Je crois que d'ici là, le stade sera fin prêt pour être utilisé.
Merci. Passons à notre premier thème de ce soir. Le gouvernement congolais et la firme canadienne Manitoba Hydro International ont lancé lundi dernier à Kinshasa un contrat de service pour le compte de la Société nationale d'électricité. À travers ce contrat, Manitoba Hydro International va apporter une assistance technique à la SNEL afin que celle-ci remplisse mieux sa mission. On écoute les explications du directeur général de la SNEL, Eric Mbala, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Nous espérons que, un, ça va réhabiliter notre image vis-à-vis de la clientèle, dans la mesure où les résultats pourront être palpables. Nous espérons également qu'on aura une nouvelle voix pour se faire entendre, parce que si vous avez quelqu'un qui a d'expérience et qui peut remettre sous la table des difficultés réelles que rencontre SNEL, peut-être qu'on pourra entendre plus facilement les requêtes de SNEL que ça ne pouvait être il y a quelque temps. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité que d'être accompagné par des gens qui utilisent déjà tous ces moyens électroniques pour la gestion, des gens qui savent comment faire passer d'une crise à plutôt au succès, et nous avons tout intérêt à asseoir cette coopération avec cette firme.
Baudouin Saïlé Mbalanga, éditeur du journal La Tchopo qui parie à Kinshasa, comment vous percevez ce contrat qui a été lancé entre la RDC et la firme canadienne Manitoba Hydro International pour aider la SNEL à devenir plus performante? On sait que la SNEL a déjà beaucoup de problèmes en son sein.
Je peux carrément dire que c'est un courage politique que le gouvernement de la République vient de prendre, franchement. Parce que nous évoluons de négatif en négatif. La SNEL, franchement, s'il y a des problèmes au niveau de la capitale, à fortiori dans l'arrière-pays, mon frère, c'est terrible. Je crois qu'avec la signature de ce contrat entre la SNEL et Matova, on va prendre les taureaux par les cornes pour qu'on sente que l'avènement de cette entreprise-là est venu corriger des erreurs de parcours, les erreurs même de la gestion, vous comprenez? Et nous espérons que l'utile soit fait dans un temps record pour permettre, ne plus qu'au Kinois par exemple, ici c'est la capitale de la République. Si nous voyons les boulevards qui sont construits, etc., il faudrait que la lumière soit permanente à travers toutes les 24 communes de la capitale. Et dès qu'on quitte la capitale, nous descendons vers l'arrière-pays pour qu'on sente qu'en fait cette fois-là, c'est la bonne, la SNEL est ressuscitée de ses cendres. Vous voyez, vous restez par exemple chez vous au bureau, à la maison, en train de suivre au capi, en train de suivre les images de la télévision, paf, le coin part. Vous sentez ce que ça fait. Et avec cette chaleur, alors s'il n'y a pas les climatiseurs, s'il n'y a pas même un petit ventilateur dans la chambre, c'est à peine que vous fermez l'œil la nuit. J'espère franchement, mon frère Hiron, que nous allons, d'ici à 6 mois, il faudrait que l'équinoxe commence à sentir la venue de ce médecin traitant. Pour ainsi dire, pour sauver les meubles au sein de la SNEL.
Giscard Koussema, vous êtes directeur général de Canal Future Télévision, une télévision qui n'émet plus depuis un certain temps à Kinshasa. La SNEL n'est pas la première entreprise congolaise qui fait cette expérience avec des firmes internationales. On se souvient que la SNCC, la GECAMINE et bien d'autres ont signé des contrats en leur temps, mais à la fin, on s'est rendu compte que ça n'avait pas produit les résultats escomptés.
Effectivement, la SNEL, comme toutes les autres entreprises de l'État, sont en faillite depuis le quelques années on le sait, et que c'est pas la première fois également qu'on a ce genre de contrat. Alors, les premières questions qu'on devrait se poser d'abord, c'est de savoir, un, c'est à peine qu'on découvre Manitoba. Qui est Manitoba? Quelle est son expertise?
Manitoba,
voilà. On dispose de très peu d'informations sur Manitoba. Deuxièmement, quels sont les tenants et les aboutissants de ces contrats? Pour éviter les erreurs de passer, les genres de contrats léonais. Vous savez, toutes les fois qu'on signe ce genre de contrats, on vient avec des informations, on vous fait miroiter, mais les cas MAG Energy est encore là dans nos esprits. On nous a dit la même chose avec Mag Energy, alors que c'était les prototypes du contrat léonin. Alors, je dirais ici, d'abord, les conditions de signature de ces contrats ne sont pas connues. Qu'est-ce que ces experts amènent? Quelle est leur cote-part? Est-ce que le problème de la SNEL aujourd'hui se situe dans l'expertise? Il me semble que non. Il existe des études menées par des experts internes de la SNEL. On connaît les vrais problèmes. Les vrais problèmes ne se trouvent pas dans les changements.
Alors, c'est à quel niveau les vrais problèmes de la SNEL?
Les vrais problèmes se situent au niveau des infrastructures. Vous le savez, le travail de la SNEL, c'est de produire, de transporter, de commercialiser. Au niveau de la production, vous le savez, il y a une faible production du courant. Combien de turbines marchent à Inga? C'est connu. Et pour mettre en marche ces turbines, on connaît, les études existent. Au niveau du transport également, les infrastructures ont vieilli. Tous les jours, à chaque pluie, il y a des pylônes qui s'écroulent. Et au niveau de maisons, les infrastructures n'ont pas suivi la transformation de la ville. Et même au niveau de la commercialisation. Donc, bien au contraire, c'est des charges de plus parce que ces gens ne seront pas payés, ne seront pas mis dans les mêmes conditions que les Congolais qui sont là et qui stoïquement résistent à toutes les menaces qui pèsent sur la SNEL. Donc je pense que là, il y a des indices sérieux qui démontrent les caractères léonais, d'autant plus que ça n'a pas été vulgarisé. Cherchez les contrats, vous ne les trouverez pas. Je mets donc des réserves et l'État a une part des responsabilités parce que l'État, c'est le premier débiteur de la SNEL.
Baba Isaac Kalonji, vous êtes journaliste indépendant basé à Mbujimayi au Kasaï Oriental. Parlez-nous brièvement de la fourniture en électricité dans la province du Kasaï Oriental et particulièrement à Mbujimayi où vous êtes.
D'abord, je suis peiné de vous le dire parce que l'électricité, c'est un mot qui devient étranger à Mbujimayi. Ça arrive irrégulièrement, et en temps de si, je ne peux pas vous définir les contours de ce dossier maladroitement traité localement, mais je suis analyste, je suis peiné, moi-même je n'ai pas du courant chez moi, je n'ai pas l'envie de l'avoir, parce que je ne l'aurai pas, donc c'est une situation dramatique au plan local, mais si me confère. Vous savez que pour la même semaine, il y a 10 ans, on avait payé l'argent de la SNEL par le Congo-Brazzaville sur le courant Inga. Et l'argent a été détourné par l'un des hauts cadres qui n'a pas été poursuivi judiciairement, qui n'a pas été inquiété. Alors maintenant, le contrat qu'on vient de signer avec les Canadiens qui se jettent à l'eau sans avoir défini le contour de ce contrat, le capital à placer et les équipements à apporter, j'ai peur qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs du passé et qu'on redevienne à la case du départ. Parce que je connais les Congolais moralement dans la gestion financière, ils travaillent pour leur ventre et pour leur poche.
Et donc, d'après vous, Baba Isaac, il faudrait craindre que la RDC ne gagne rien dans ce type de contrat?
Sauf les poches et les ventres de ceux qui seront dans l'exécution du plan, parce que vous n'avez pas encore exactement le capital apporté par ce partenaire canadien. Vous n'avez pas encore suffisamment d'éléments sur l'équipement fourni. Et l'expertise, d'accord, ils peuvent en avoir, mais techniquement, il faut les équipements, et moralement, il faut l'argent, mais quel argent, de quelle hauteur, quel budget pour la relance de la SNEL? C'est ça la crainte de tous les Congolais, y compris moi.
Alors, Baudouin Saïlé, Giscard Koussema disait tout à l'heure que les problèmes sont connus. Ce n'est pas l'expertise qui manque à la SNEL. Et d'ailleurs, l'État doit beaucoup à la SNEL.
Oui, c'est vrai. L'État doit beaucoup à la SNEL. C'est pour ça que l'État prend le devant de la scène pour corriger les erreurs. Ne soyons pas tout à fait optimistes et pessimistes à la démarche, mon frère. J'ai demandé tout souvent à la presse d'accompagner cette démarche-là, la énième, comme a dit mon frère, la énième, pour permettre à ceux qui viennent franchement pour faire du bon travail et non de l'aventurisme. Nous devons être vigilants de A à Z. Il faudrait quand même qu'on sente que d'ici 6 mois, qu'on sente que, par exemple, Bumbu, ça fait un mois que Bumbu est dans l'obscurité.
La périphérie de Kinshasa.
N'est-ce pas? Hein? Nselé et tout. Et les communes environnantes de la capitale soient éclairées. La capitale congolaise doit être éclairée, comme mon frère de Mbujimayi a dit qu'il n'a même pas envie d'avoir des systèmes. C'est grave.
c'est-à-dire que quelque part il est découragé. Alors je lui demanderai de prendre son courage à la main et d'être vigilant, d'être toujours au contact avec les gouvernements des provinces pour que vraiment demain qu'on lance un nouveau soulagement. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème de manque de courant, même à Kisangani chez moi. La rive gauche de Kisangani est dans l'obscurité, ça fait 20 ans. La rive gauche, c'est là où la SNCZ fonctionnait à plein régime. Aujourd'hui, il n'y a que des mitrailles, il n'y a rien du tout, vous comprenez. Il faudrait que cette fois-ci, avec le contrat qui vient de se signer, et qu'on va voir les blancs parmi nous, alors qu'il y a l'expertise locale, prenons le courage avec ces blancs-là pour faire du bon travail et abandonnons l'État. Je vous assure.
Alors, pour vous, quels sont les préalables pour que ce type de contrat soit une réussite?
Bon, je crois qu'il y a des experts maison qui sont là, les gouvernements avec Madame la ministre du portefeuille. Je crois qu'avant d'arriver à la signature, il y a eu des réunions et des réunions. Et à l'issue de toutes ces réunions-là, on ne devait pas faire d'aventure. On dit, allons vite signer les contrats pour que le gouvernement travaille. Je crois qu'il y a des assurances de part et d'autre. Et j'espère que franchement, qu'on ait pitié de la population. Et le gouvernement, je crois qu'il a pitié de la population. C'est pour ça qu'il cherche par tous les moyens pour essayer de remédier la situation et que ça se fasse sans qu'il y ait encore des casse de main. Voilà.
Giscard Koussema, vous parliez tout à l'heure de la faible production. Le directeur général de la SNEL a par ailleurs annoncé à l'issue de cet échange avec la presse la mise en service au mois de juillet prochain de la deuxième ligne Inga-Kinshasa. N'est-ce pas une solution déjà?
Oui, mais cette deuxième ligne-là ne vient pas des Canadiens. Pour dire que donc la SNEL elle-même peut renforcer sa production sans faire recours. Alors, je voudrais relever un autre point, parce que dans le même reportage ici, on nous dit que l'argent vient plutôt de la Banque mondiale. Alors là, c'est encore beaucoup plus flou. L'argent est de la Banque mondiale, mais les gestionnaires, l'expertise vient canadien, Manitoba, mais pour une entreprise congolaise. Mais finalement, qu'est-ce que Manitoba apporte? Et Manitoba n'est pas une organisation philanthropique. C'est pas une association caritative qui vient travailler pour les bénévolats. Donc vous verrez que, un, d'abord, le traitement salarial va engloutir beaucoup d'argent. Ils doivent engloutir beaucoup d'argent également dans les études, parce qu'on le sait, on dit non, il y a des études de faisabilité. C'est des gens qui seront entre deux hélicoptères tous les jours pour Inga et tout ça. C'est de l'argent parti. Et puis, c'est des directeurs, ils doivent travailler dans les mêmes conditions qu'à Ottawa ou à Montréal. Et puis, en finalité, on vous dira que la SNEL doit encore de l'argent, ces gens, parce que c'est pas une association caritative. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait parler de tenants et des aboutissants de ces contrats clairement. C'est pas à Manitoba de venir changer les cabines qu'il y a à travers les circuits de distribution. Donc, je pense que nous risquons déjà de tomber dans le MAG Energy Bis, ou tous les autres contrats qu'il y a eu auparavant à la SNEL.
Mais qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, Giscard Koussema, pour que la SNEL devienne plus performante?
Je vous dis que les études sont renforcées les trois secteurs. C'est clair au niveau de la production. Je vous ai dit, allez voir aujourd'hui à Inga, sur les sites d'Inga, combien de turbines marchent. Vous savez que c'est une seule turbine. Il faut rationaliser à ce niveau-là. Tout l'argent que la Banque mondiale envoie, tout ça, toujours englouti dans ces genres d'experts qu'on nous amène. On vous a dit ici que même le Inga qui est resté là est menacé d'écroulement parce que toutes les immondices qui viennent de Kinshasa ici, toutes les tonnes et les tonnes de bouteilles en plastique sont en train de créer des problèmes là-bas. Il y a eu un premier contrat pour aller curer, mais ça n'a jamais été fait. Merci. Donc il faut renforcer au niveau de la production, au niveau de la commercialisation, on l'a dit, les études existent également. Il faut changer les circuits de distribution et il faut rationaliser aussi la commercialisation, éviter qu'un individu, merci, par exemple, aille percevoir l'argent Brazzaville, le met dans sa poche et c'est connu. Merci. C'est connu de tout le monde sans qu'il ne soit puni.
Baba Isaac, pour vous, quels sont les préalables pour rendre la SNEL plus performante?
D'abord, les philosophes latins disent « qui quis facem parabellum », c'est-à-dire celui qui veut atteindre un succès, il doit s'y préparer. Celui qui veut gagner une guerre, il doit prendre l'avance sur les préparatifs. Donc, SNEL fait partie des entreprises du portefeuille de l'État. Et elle n'a jamais fonctionné il y a 20 ans. Tout ce qu'on fait, c'est la parodie, c'est une aventure. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un qui veut se jeter à l'eau comme donner un sursaut d'orgueil à la SNEL, c'est-à-dire donner les moyens, l'expertise, la technologie, et même chercher les performances pour cette entreprise du portefeuille de l'État, je ne peux pas m'attendre, moi, à un résultat positif, puisque c'est l'unique entreprise qui s'engage à venir chez nous au moment où le climat des affaires est maussade. Parce que depuis que le gouvernement Matata Mozito et même le Kizenga est là, et les trois gouvernements, aucun investisseur étranger ne s'est hasardé à venir chez nous pour investir. Alors, que la firme canadienne s'arroge le droit de venir chez nous, prenne le courage de venir chez nous, il faut qu'on définisse les contours de cet accord qui, pour moi, a les allures léonaises. C'est-à-dire, ce n'est que pour les ventres et les poches des gens, ce n'est pas pour le souverain primaire qui doit en tirer d'énormes profits. Par conséquent, mon appréhension, c'est que si tout n'est pas défini au départ, c'est un contrat qui sera voué à l'échec.
Merci.
Et la SNEL ne peut pas compter sur un contrat où la Banque mondiale est dedans, les Canadiens viennent en intermédiaire ou en co-gestionnaire sur l'expertise de la SNEL locale. Et à ce moment-là, moi, je ne vois pas la symbiose, je ne vois pas le mariage de cette magie-là qui doit conduire la Banque mondiale avec le Canada vers la SNEL à travers le gouvernement congolais. Je doute fort que la SNEL puisse sombrer.
Merci Baba Isaac Alongi. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Les listes définitives des partis politiques sont là. Le gouvernement les a remises officiellement mercredi à la CENI. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur affirme avoir inscrit 477 partis et une trentaine de regroupements politiques reconnus par l'État congolais. 16 nouveaux partis se sont donc ajoutés sur la liste des partis inscrits en 2011. Comment les acteurs politiques congolais perçoivent le fonctionnement et l'organisation des partis politiques en RDC? On écoute le député national Gaston Moussemena, cadre du PPRD, joint par Berry Franklin Luchaka.
Bien, vous devez savoir que tous les partis sérieux ont des organes qui permettent le fonctionnement des partis conformément à la loi qui crée les partis. En général, le parti a comme organe suprême le congrès. Après le congrès, chaque parti a un organe de décision, d'orientation qui est communément appelé bureau politique. Les partis a aussi, après le bureau politique, un organe à caractère législatif qui est communément appelé aussi l'assemblée du parti. Et le parti a un comité exécutif qui est comme le gouvernement du parti. Et toutes les grandes décisions, d'après le statut et le règlement intérieur de tous nos partis, sont prises au niveau du congrès. Il est obligatoire de tout parti sérieux doit avoir un projet de société. Parce qu'un parti, c'est quoi? Vous savez, quand on crée un parti, c'est une organisation de gens qui veulent conquérir le pouvoir. Vous savez, dans notre pays, qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont qu'une représentation provinciale, familiale. Il y a quelques partis seulement qui ont des représentants à tous les niveaux, c'est-à-dire à toutes les provinces. Le PPRD, mon parti, par exemple, nous connaissons que l'IDPS a des représentants à travers toutes les provinces. Le MLC vient un peu après.
Nous allons maintenant écouter l'ambassadeur François-Xavier Belchika, président national du CDPS, parti de l'opposition. Il est joint au téléphone par Kevin Kouté.
Il est vrai que nous pouvons dire qu'il y a une différence notoire entre ce qui est écrit et ce qui est pratiqué. Souvent, nous constatons que, un, ce qui est écrit, en réalité, peut répondre aux aspirations de la population, mais suivez comment ces dirigeants fonctionnent et agissent tous les jours par rapport à ce qu'ils ont déclaré. Vous constaterez souvent que c'est le jour et la nuit, d'une manière générale. Voilà pourquoi, en ce qui nous concerne, nous disons, nous devons apporter dans la culture politique congolaise une autre dimension de fait de la politique. C'est-à-dire, essayer autant que faire se peut, de se conformer à ce qui est écrit et aux principes et aux valeurs qu'on défend. Il ne faudrait pas que nous disions autre chose et dans la pratique, nous puissions trouver autre choc. Exemple, lorsque les gens disent qu'il faut nécessairement qu'il y ait l'état de droit dans notre pays. Très bonne chose. Mais il faudrait qu'alors l'existence de l'état de droit qui correspond à savoir leur respect de texte, que les partis eux-mêmes se conforment dans leur organisation à cet esprit, qu'on puisse voir comment effectivement ces partis appliquent à la lettre et respectent les règles qui se sont données eux-mêmes au niveau de leur structure.
Notez que pour le vice-premier ministre Évariste Boshab, si on s'en tient à la loi, seuls trois partis politiques seraient en ordre pour se présenter aux prochaines élections. Giscard Koussema, directeur général de Canal Future Télévision, une télévision qui n'émet plus depuis un certain temps à Kinshasa, comment vous analysez cette actualité liée au dépôt de la liste des partis politiques par le gouvernement, la CENI?
Je voudrais d'emblée dire qu'une telle affirmation venant du vice-premier ministre chargé de l'agrément des partis politiques est simplement grave. Alors, deux hypothèses se dégagent de ma part, où le constat d'Évariste Boshab est avéré, où il est alors erroné. Et dans les deux cas, lui devrait tirer toutes les conséquences. Alors, commençons par l'hypothèse d'un constat qui est vrai. Donc, ceci devrait nous pousser à nous poser finalement la question, quelles sont les conditions juridiques que doit remplir un parti politique? On dit que les partis ne sont pas en règle. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être en règle? Parce qu'il me semble que l'acte de naissance d'un parti politique, c'est un arrêté du ministre de l'Intérieur. Cette personnalité juridique est accordée après le dépôt et examen d'un dossier. Et lorsque vous déposez les dossiers, il y a tout ça, les statuts, les projets de société, c'est après examen que le ministre prend de l'arrêté. Donc, Boshab veut nous dire que tous ses prédécesseurs sont des faussaires ou des incompétents pour n'avoir agréé que trois bons partis politiques, dont le PPRD. Et là encore, je peux remettre en doute ces affirmations parce qu'il y a aujourd'hui, la plupart des partis marquent leur agrément au niveau de leur en-tête. On vous dira parti qui existe suivant tel arrêté.
Alors,
il existe
hypothèse.
Des partis politiques cinquantenaires comme les Palous. Donc, lui veut nous faire croire l'UDPS créée en 1982. Donc, je pense que nous devons-nous donc désormais considérer ces associations que Boshab assimile à des partis politiques sont des milices, ce sont des fan clubs ou des associations caritatives. La deuxième hypothèse maintenant, pour dire que où le vice-premier ministre fait un constat erroné, et je crois qu'il est proche de là, parce que sa démarche procède d'une logique de vouloir écarter certains partis politiques à la course au motif qu'ils ne sont pas en ordre. Rappelez-vous, Lambert Mende a fait la même chose des médias. Il dresse une liste, et puis après, on accorde un moratoire et des journaux ne sont plus revenus. Des journaux qui ont pignon sur rue et qui fonctionnent normalement.
Donc il faut élucider cette situation.
Oui, on doit clarifier parce que je vous dis que l'acte de naissance, on ne doit pas faire l'amalgame entre les moyens de fonctionnement et la légalité, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait enregistrer. Et lorsqu'on s'est fait enregistrer, on a un décret. Ça signifie qu'il y a eu un examen, on a tout ça. Et c'est comme ça qu'on a été agréé et les difficultés de fonctionnement. Et là, se dégage alors la responsabilité de Boshab, justement, parce que, un, les partis politiques sont tous censés avoir la subvention de l'État. Mais ici, que se passe-t-il? Tous ceux qui sont partis de la majorité ont la liberté de se réunir dans des ranchs à la périphérie. On sait comment ça se passe. On va pique-niquer là-bas, alors que ceux de l'opposition ne peuvent même pas se choisir un porte-parole, ne peuvent pas se réunir. Donc, je termine pour vous dire que la deuxième responsabilité de Boshab lui-même, c'est lui qui est à la base d'une certaine majorité qu'il a appelée une majorité mosaïque.
Merci,
avec
Giscard.
Des partis AAA, PPPD, CCC, et pour qu'il ait sa majorité. Donc, on doit considérer aujourd'hui que la majorité est un fourre-tout où on a des partis fictifs et qui ne répondent pas à la norme.
Bodin Saïlé, quelle est votre réaction par rapport à la liste des partis qui a été déposée à la CENI par le gouvernement?
Chers confrères, je dis tout simplement qu'il n'y a pas de parti politique qui regarde l'avenir du peuple dans ce pays.
Moi, aucun.
Aucun.
Sur les 447.
C'est-à-dire que je parle de tous les partis politiques. Moi, je suis témoin de l'histoire de ce pays. J'ai été à la conférence nationale souveraine. Pour venir à la conférence nationale souveraine, Irung se réveille le matin, il se précipite avec son épouse et ses enfants, il crée un parti politique. Juste pour être accrédité à la conférence nationale souveraine. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y a un parti politique qui est présent dans tous les territoires de la République, où on voit un bureau climatisé, où on voit des adhérents, des sympathisants qui cotisent ne plus qu'un dollar par mois. Qui cotise? Qui est de quel parti politique cotise un dollar par mois? Il n'y en a pas. Non. En Europe, pour être politicien, il faut avoir un minimum. Il faut avoir un compte en banque. Un parti politique doit avoir un compte en banque, doit avoir des adresses où on peut l'accéder facilement. Et sinon, ici, on se réveille le matin, on dit que voilà, moi, je suis opposant.
Et c'est moi ici la mouvance. Quel est le projet des sociétés XY? Le parti politique, c'est un ensemble de gens réfléchis pour le devenir de la République, pour apporter un petit plus à la démarche de la République. Mais parti politique, non, tout le monde n'est pas prêt à être politicien. Un parti politique doit disposer des journaux, des chaînes de télévision,
des médias,
vous comprenez pas ça, des bateaux. Des partis politiques, ça contribue au développement de la République. Mais ici, on crée un parti politique pour devenir vice-ministre, pour devenir député, pour devenir ADG, etc. Et il n'y a pas de projet de société. On s'occupe que de son ventre, mon frère ami.
Et donc, on est loin de la véritable perception d'un parti politique.
Je vous assure, il faut encore du temps, parce que la démocratie que nous avons cherchée, la démocratie, c'est comme l'indépendance à l'époque. Hein. Les gens croyaient que l'indépendance immédiate. Voilà, nous qui vivions à la cité, nous allons maintenant évoluer au centre-ville avec des villas. Tout, il n'y aura plus de travail, il y aura des salaires de temps pour rien. Vous comprenez, c'est ça. Les gens croient que la démocratie, et c'est la l'oisivité. On ne travaille pas, on ne réfléchit pas, on n'étudie pas, on ne projette pas l'avenir. Il n'y a pas de parti politique, mon cher Yerong, il n'y en a pas.
Merci. Baba Isaac Kalonji, comment vous réagissez? Vous avez suivi Baudouin Saïd est vraiment au bord des larmes en disant qu'il n'y a pas de véritable parti politique en RDC. Quel est votre point de vue par rapport à l'organisation et au fonctionnement des partis politiques en RDC?
Estimé et distingué confrère, je suis choqué que ce soit le vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui dise qu'il y a trois partis politiques en règle. Il est 1991, Mobutu lance une boutade multipartisme médiatique,
intégral,
politique. Et il décrète une journée pour expliquer que désormais la dictature est partie. Les partis politiques peuvent naître, peuvent survivre et peuvent mourir. Au bout du pas, nous restons 23 ans ou 28 ans plus tard, il y a quelqu'un qui se met debout pour dire qu'il n'a reconnu que trois partis politiques qui doivent être en ordre, qui doivent être en règle à la veille des élections. Il faut d'abord comprendre les intentions de M. Bouchard. M. Bouchard nous surprend à nous tous. Il est professeur de droit, on ne comprend pas comment il peut se comporter de cette manière-là vis-à-vis du souverain primaire qui est sa base, qui est ma base. Moi, je suis de la société civile, je ne peux pas créer un parti politique, je suis observateur force d'équilibrage, je suis en train de suivre les politiciens qui sont au commandement, qui doivent aider le pays à émerger. C'est maintenant qu'il y a trois partis politiques alors qu'on en a 473, avec 40 groupements ou formations politiques. Et nous sommes vers la dérive totalitaire. Je ne comprends pas ce que cela peut produire au moment où, après deux mois, nous irons aux urnes pour les locales, pour les municipales et les urbaines. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension est la suivante. Qui agrée un parti politique pour qu'il devienne correctement en ordre vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des membres, vis-à-vis du souverain primaire, qui cherchera à adhérer à ce parti? Mais c'est l'État. Pour créer une télévision, un journal, il faut d'abord adresser une demande, une déclaration. Et quand vous avez reçu le récépissé, c'est alors que vous êtes reconnu par l'État comme étant propriétaire d'une chaîne de radio ou de télévision ou d'un journal ou une revue. Mais de quelle manière, monsieur le vice-premier ministre, peut parler comme ça devant l'auditoire congolais qui l'écoute? Nous sommes choqués.
Baba Isaac.
Ça peut venir de lui.
Baba Isaac, et donc, comme Giscard Koussema et Baudouin Saïlé l'ont dit, il faudrait très rapidement élucider cette situation.
C'est-à-dire qu'il faut mettre un terme d'abord à l'agrément des partis alimentaires, des partis qui viennent pour besoin de la cause et non pas pour conquérir le pouvoir et le conserver. Parce que l'objectif principal d'un parti politique, c'est de lutter et persuader le peuple, aller à la base pour que la conquête du pouvoir soit effective et que le pouvoir soit conservé. Et ce parti-là, en fonction de ses éminents animateur, c'est propagandiste et puis ses membres influents peuvent conquérir le pouvoir dans n'importe quel contexte et chercher à le conserver le plus longtemps possible. Mais est-ce que c'est le cas de nos partis politiques? Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque,
très rapidement,
c'est parti-là qui va chercher à conquérir le pouvoir. Pourquoi existe-t-il? mais qui les a agréés? C'est pas la même autorité qui dénonce aujourd'hui.
Merci Baba Isaac Giscard Kouassema. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Baba Isaac Kalonji soutient qu'il faudrait assainir le climat politique en RDC en mettant fin aux partis alimentaires.
Non, moi je reviens plutôt sur la confusion que fait Boshab de moyens de déploiement avec la légalité. Parce qu'on l'a démontré ici, c'est lui, c'est le ministère qui agrée. Je voudrais dire ici, il ne faut pas faire porter les poids, la RDC est un pays continent, au seul parti politique. Aujourd'hui, l'État lui-même a du mal à se déployer à travers les provinces. La télévision nationale, est-ce qu'elle arrive partout? Ça relève de la responsabilité de l'État. C'est pas fait. Les journaux, aujourd'hui, est-ce que mon confrère Saïd le peut me dire ici, c'est la Tchopo élue dans les Katanga, dans les Bandundu, partout? Mais c'est un journal congolais. Donc, ce sont des difficultés qui sont liées à l'étendue très vaste du pays. Les poids politiques d'un parti politique se mesurent à travers des élections. On ne peut pas cracher sur des partis qui ont dépensé des moyens à la présidentielle, se sont déployés partout, ils se sont dépensés au niveau des législatives avec des candidats partout, et dire aujourd'hui non, Boshab veut revenir au monolithisme politique parce qu'il estime que le PPRD, lui, est imposé partout, parce que en fait, aujourd'hui, pour faire partie de l'administration, il faut avoir la carte jaune que lui délivre. Non, je crois que ça, c'est une tentative, comme l'a dit Baba Isaac, de nous ramener au monolithisme, et ce n'est pas à lui de venir nous dire que tel parti ou pas, parce que c'est au sein de la majorité qu'il y a des partis satellites et où il y a des partis qui vont pique-niquer à la périphérie sans qu'il n'ait un seul député. Même les sièges ne sont pas connus. Il a fait dur
des gens. En guise de conclusion, Giscard Kouassema.
Oui, en guise de conclusion, nous voulons dire que l'extrémisme ne paye pas. L'extrémisme ne paye pas. Les mises en scène, la diabolisation des autres, où la majorité s'est fait des saints, l'opposition s'est fait des impopulaires, des gens qui ne pensent pas. Je crois que l'extrémisme ne paye pas. Aujourd'hui, cet extrémisme nous a amenés là où nous sommes, et les Congolais n'ont pas besoin de ces discours d'extrémisme. Il n'appartient pas à Boshab de pouvoir attribuer des cartons à des partis politiques, sinon c'est l'inanition que lui-même apprenait dans son
Merci.
Livre.
Baudouin Saïlé, il faut conclure déjà. Giscard pense que c'est plutôt un problème lié à l'étendue du pays qu'à l'agrément des partis.
Mon frère, pour créer un parti politique, il faut avoir l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous restez à côté, faites autre chose. Vous comprenez un peu ça. Hein? Je dis tout simplement qu'il n'y a pas de parti politique dans ce pays. S'il y en a peut-être un ou deux, tout ça, mais les restes, ce sont des partis alimentaires. Vous comprenez? Un parti politique veut dire une organisation interne musclée, où vous sentez l'animateur principal, les cofondateurs. Ils travaillent à travers la République, ils font des meetings. S'il y a un problème qui se pose à Kinshasa, ils sont là près de la population pour expliquer à la base. Aujourd'hui, nous avons le découpage. Quel est le parti politique qui a déjà commencé à expliquer à la base que veut dire le découpage?
Conclusion.
Voilà, conclusion, je dis tout simplement que vive le découpage, que d'ici au mois de juin, que tous les gouverneurs qui sont concernés déposent les armes Merci. Et vivent les nouveaux venus.
Merci. Baba Isaac Kalonji, un mot en guise de conclusion.
Évariste Boshab fait le relais de la Troïka qui exige qu'il y ait deux candidats en 2016 à la présidentielle, c'est-à-dire républicains et démocrates, et leur demande qu'ils ne fassent pas semblant de dire que c'est lui qui décide pour les trois partis. Les deux partis qui seront reconnus par lui feront justement Merci. La campagne en 2016. Nous y croyons. Nous savons que c'est cela qu'il veut dire, mais il veut montrer que c'est le gouvernement congolais qui décide. Donc,
Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse s'est terminée pour ce soir. Réalisation Guy Maté, à la technique Guy Manzangou, supervision Ben Kabamba, coordination et présentation Alain Irung Mouchiche. Au revoir.